Jetzt haben wir Ordnung. Fertig mit dem abergläubischen Gfotz und dem Götzeglump. Unsere Herren zu Bern können wohl etwa zufrieden sein. Da sieht kommen wir Heimatschutztheater. Je prends une autre phrase, une autre description de Chessé. Gros de veau, pays ample, figure solide et rusée. J'entre dans la puissante contrée aux gémissements des étables et au profond souffle des mufles arracheurs d'herbes et de touffes scabieuses dans la richesse du terreau et du lait. Voilà. Et en allemand, ça donne gros de veau, weites Land mit derbschlauen Gesichtern, mit dem Geklön und Gewefe aus den Ställen, wie tiefe Blasbälge schnauben die Mäuler, wenn sie Gras und Skabiosenbüschel abstrupfen inmitten der sanftsaftigen Milchmatten. Où il y a souvent des jeux de mots qui sont intraduisibles. Par exemple, il dit « gros de veau ». Le mot fait d'abord un veau gras et fort, broutant une prairie verte au soleil, dans la plénitude d'un après-midi de coups de bise et de mouches tourbillonnantes autour des naseaux roses et humides dans la chaleur. Veau. L'évidence vigoureuse de l'animal est nouée au poids du canton. Gros de veau, le riche vocable ajoute à la bête une épaisseur noble, une ampleur, une vibration de lumière qui font fête au pâturage et au labour entre Échallens et Cugy. Saluons donc le veau vaudois. Das Wittendeutsch, ein gros de veau, ich kann nicht spielen mit dem Wort. Der Name lässt im Französischen an ein wohlgemästetes Kalb denken, das in einer grünen Matte weidet, in der prallen Sonne eines Nachmittags, an dem manchmal ein munteres Lüftlein weht und die Fliegen in der Hitze um die rosig feuchten Nüstern zwirbeln. Wo heißt Watt und wo heißt Kalb? Die Wörter tönen gleich. Und wenn man sie hört, so sieht man schon das Kalb im Wattland, etc. Et j'ai toujours essayé de refaire les rythmes et aussi les rimes. Par exemple, il cite des règles de paysans, là, et par exemple, dès les premiers froids, fais du lard, tue ton porc, n'attends pas trop tard. Das gibt auf Deutsch, kommt der Frost, so mache Speck, stich die Sau und häng sie weg. Anders, es gibt andere Methoden. Das wurde auch auf Italienisch übersetzt, das ist die deutsche Übersetzung. Ich habe die italienische Übersetzung, es war ein Tessiner Journalistenkollege, der das ins Italienische übersetzt hat. Und der hat weder Rhythmus noch Reime gesucht. Der hat es nur übersetzt einfach. Und er hat daraus gemacht, con i primi freddi fa il lardo, uccidi il porco, non fare tardi. E lardo e tardi, ça ne rime pas, il n'y a pas de rime. Et je pense qu'il aurait pu trouver. Il aurait pu le trouver, parce que l'italien est très riche en tout ça, mais il n'avait pas la même vision de la traduction. Sa traduction, c'est pas bien vendu. Les Tessinois ne l'ont pas compris, ils n'ont pas compris les Vaudois. Et il y a l'onomatopoésie, quelquefois. Par exemple, quand il parle du dimanche, il y a les cloches. Ohé, ohé, loué Dieu et la sainte paraisse dimanche. Und es gibt auf Deutsch, kommt her, lobe den Herrn und die selige Muße des Sonntags. Là, c'est juste aussi de Oé, l'aube, de compter, Oé, Oé. Là, j'ai essayé de refaire le tout. Ou quand les Bernois viennent de faire de l'ordre religieux dans le pays de Vaud, et quand ils détruisent les statues et les images dans la cathédrale de Lausanne, c'est marqué « Les statues s'écrasent avec fracas, les nefs sonnent tristement, les coups de marteau font des échos plus clairs dans le beau marbre et la pierre. » Et ça donne « Die Statuen sacken krachen zusammen, trauervoll dröhnen die wunden Gewölbe, Hammerschläge klirren auf Marmor und Stein, Flammen knistern. » Et vous voyez que quelquefois l'allemand, juste pour des faits guerriers, destruction, etc., l'allemand est une langue très impressionnante. Oui, parce qu'il n'y a pas les sons comme Sacken krachen. Là, il ne faut presque pas expliquer ce qui se joue. Et tout à fait autre chose, là, il y a Alice Riva, elle cite là une poésie, un alexandrin de Jean de Spondet du XVIe siècle, qui a donné le titre de son Bemestizeit, donc... c'est compter vos jours. Et là, et moi j'aime à refaire une poésie, de jouer avec, de retrouver tout ça. Alors, c'est du XVIe siècle. Hélas, comptez vos jours, les jours qui sont passés sont déjà morts pour vous. Ceux qui viennent encore mourront sur le point de leur naissante aurore, et moitié de la vie et moitié du décès. Et ça donne en allemand O weh, bemesst die Zeit, denn löst ein Tag sich ab, so ist der Tod für euch. Und alle neuen Tage, die aus dem Dämmer nahen, verkünden Todesklage des Lebens Mitte, ach, ist halbwegs schon das Grab. Donc ça sonne un peu autrement, mais c'est le rythme qui et les rimes qui sont intéressants. Maintenant, j'ai fait combien? Ça va encore? Alors, j'arrive vite à la troisième partie de mon exposé et à la conclusion. Disons, je vous ai parlé du portrait des Vaudois que j'ai traduit. C'était donc un des premiers livres. J'ai cru qu'il y en avait eu trois, mais j'ai lu quelque part qu'il y en avait eu cinq. Et moi, j'étais très, très étonné. Quand le livre a paru, il y avait des articles, pas seulement en Suisse allemande, ou peut-être beaucoup moins en Suisse allemande qu'en Allemagne et en Autriche, de Hambourg et de Vienne, de Berlin, tous les grands journaux, les radios, la télévision parlaient de cette traduction. Justement parce que j'avais essayé de refaire un peu du Gotthelf, donc une histoire du terroir inconnue de Suisse romande. Et j'avais ajouté, là, dans le bouquin, j'avais employé beaucoup de mots bernois, comme je vous ai dit, et j'avais là expliqué, j'avais fait donc un peu... J'avais expliqué un peu ces mots que j'employais, je les avais traduits en bon allemand. Et après, j'ai fait un lexique sur toutes les personnalités, parce que Jesse a l'impression que le monde entier doit connaître tous les grands vaudois. Là, j'ai mis quelques lignes sur la G.A. Augsbourg, la reine Berthe de Bourgogne, Marius Besson. Là, oui, il y a des gens que je connais pas ou j'ai oublié. André Bonnard, oui, helléniste, oui. Et communiste. Et Bornand, Samuel, imprimeur. Et j'ai toujours expliqué. Et il y avait une deuxième édition, et là j'ai téléphoné pour demander si les personnalités étaient vivantes encore. Quelquefois c'était la femme qui répondait, mais alors j'ai renouvelé, j'ai corrigé. Calvin Jean, Cérézol Pierre, Maurice Chapa, Chuard, Ernest Louis, Saint-Gria, Charles-Albert. Donc j'ai fait un petit lexique de Suisse romande pour les Suisses allemands et pour les Allemands et les autres. Et donc j'ai expliqué les mots Forel, et là, oui, autre, Guiguerre de Prangin aussi, etc. Donc j'ai fait une explication parce que il y a des gens, j'ai déjà rencontré en Allemagne des gens qui ne connaissaient pas le pays de Vaud. Et ça, c'est incroyable, parce que Chessé m'avait expliqué que le pays de Vaud, c'était tout. Hein. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Quand il avait les vacances, il restait toujours dans son pays et il n'allait pas ailleurs. Il est allé une ou deux fois à Paris, et une fois, il y a même eu l'Académie Goncourt qui est venue la première fois de Paris à l'étranger, même dans le pays de Vaud. Et il y avait un membre, je ne sais plus lequel, de l'Académie française en 73, qui a écrit un article dans la Gazette de Lausanne de l'époque. Et le titre, j'aimerais être vaudois. Voilà, un Parisien. Mais j'essaie, il vend son pays de Vaud d'une manière aussi intelligente et poétique, etc. J'ai traduit d'autres bouquins de lui et j'en parlerai encore, j'en dirai encore deux. De ligne après. Mais donc de ces premières, les œuvres traduites, la première série, il y avait donc le portrait des Vaudois qui avait un succès à l'étranger. Et j'ai autant de copies d'articles, etc., de tous les journaux, mais aussi en Suisse, parce qu'il y avait un bouquin d'un écrivain tessinois qui avait été traduit en allemand. Et malheureusement, c'était une dame. J'ai rien contre les femmes, j'en ai traduit beaucoup et elles sont excellentes. Mais c'est une dame qui ne connaissait pas assez la Suisse. Alors, dans ce bouquin, il y avait... je me souviens plus de l'histoire. Il y avait des soldats suisses et elle, comme allemande, elle a parlé d'un Feldwebel. Mais si quelqu'un en Suisse est un Feldwebel, alors il est de l'armée allemande. Et pendant la guerre, c'était pas très suisse d'être Feldwebel. En Suisse, c'est le Feldwebel, et aussi il faudrait faire attention, même avec les grades, parce que le lieutenant français est un premier lieutenant. En Suisse, c'est tout à fait différent. Le major n'existe pas en France. Il est commandant, etc. Donc, si on traduit, il faut tout revoir ça. Moi, pour un autre bouquin de Chessé, j'ai étudié tous ces grades des organisations nazies pour ne pas me tromper. Lui, il pouvait se tromper en français, mais en allemand, dans la traduction, ça devait jouer. Et j'ai heureusement encore un petit lexique de Volksbrauchhaus de 1943 qui est plein d'explications sur les organisations nazies. C'était au centre de l'instruction des jeunes qui allaient venir dans ce grand empire de quelqu'un qui était appointé quand même. Il y a dernièrement, il y a quelqu'un, un Allemand, qui parlait à la télévision. Il a dit, on avait au moins un appointé. Et le président américain, c'est un civil, il n'est même pas appointé. Voilà. Et voilà. Maintenant, comment est-ce que je me suis entendu avec tous ces éditeurs-là? Et j'ai vécu donc la naissance de cette série de traductions. C'est mon ami Hans Czerny, qui était rédacteur au Tagesanzeiger. Il était mon collègue et on s'est toujours bien entendu quand je parlais du problème jurassien, parce que lui, il était du Lofonais et il était très critique envers Berne. Donc je pouvais être très critique sans qu'il dise il faut être plus prudent et tout ça. Donc et je tapais quelquefois, mais je pense toujours à juste titre contre le gouvernement bernois. Et lui, il avait du plaisir. Et il m'avait raconté, maintenant, je vais faire une collection de traductions. Il y a quelque part sa photo là encore. Et après un moment, il dit, ça ne réussit pas, je crois que je dois... J'ai déjà rassemblé des fonds de plus de 100 000 balles. Je crois que je dois les rendre cet argent parce que on ne réussit pas. C'était son côté, il y avait ça, et j'ai rien compris comment ça se faisait. Et mais moi j'avais mon problème parce que un jour il y a un éditeur badois, mais je me souviens plus du nom, de Pharos. Et il m'avait demandé un bouquin sur le problème jurassien. Et j'ai fait un bouquin sur le problème jurassien et j'ai toujours pu dire, très longtemps, que c'était le meilleur bouquin en langue allemande sur le problème jurassien, parce que c'était le seul. Mais après, il y a plusieurs bouquins aussi en allemand qui ont paru, surtout des Allemands. Il y a même un capitaine de la Bundeswehr qui a écrit un bouquin sur, etc. Mais pour un petit moment. Mais donc, c'était cet éditeur de Bâle qui m'avait demandé, et quand je lui ai envoyé le texte, il était étonné, très content. Et un jour, il m'écrit, c'est moi qui prendrai les traductions allemandes pour la liste, pour la série CH, et je vous prie de traduire le portrait des Vaudois de Chessé. Et c'était au début mai, je ne sais plus quelle année, là, en 72 ou quelque chose comme ça. Et il dit, j'aimerais la traduction jusqu'à la fin du mois. et je vous offre 5 francs par page. » Alors, j'ai travaillé comme un fou pour voir combien de temps il me fallait, et puis je lui ai répondu, j'ai commencé, mais je vois que, disons, que je n'arriverai pas à la fin du bouquin jusqu'à la fin du mois, et 5 francs, c'est un peu, je ne veux pas compter mes heures, mais ça me fait quelquefois 1 franc l'heure, et ce n'est pas trop bien payé. Mais je n'ai plus rien entendu de lui, et j'ai pensé, il va tout préparer, et après le mois, j'ai continué, j'ai traduit un chapitre, et je l'ai envoyé même par express, parce que j'avais encore, les habitudes du journaliste du quotidien, où il fallait vite, et tout ça. J'ai plus rien entendu de cet éditeur, et un jour, je reçois une lettre de Frauenfeld, Huber Verlag, un monsieur Fischer, écrit avec V, qui me dit, moi j'ai reçu votre traduction de Chessé, elle me paraît excellente et j'aimerais très bien, j'aimerais la publier. Alors je lui ai répondu, mais je ne vous ai rien envoyé. Et je l'ai envoyé, j'ai un contrat par formel, mais par écrit de l'éditeur de Pharos, je ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas que c'est probablement l'éditeur de Pharos qui s'était débarrassé, il l'a envoyé à Frauenfeld, parce que, entre-temps, il avait eu des bragues avec mon ami Hans Czerny et avec Frenkel, de Soler, qui est maintenant rédacteur à la Neue Zürcher Zeitung. Alors, il avait des bragues avec eux, et il ne m'a même pas répondu, rien écrit, il s'est débarrassé de tout ça. Et pire, moi, c'est maintenant seulement que je me rappelle, parce que j'ai tant publié que je ne pouvais pas tout contrôler. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas payé ce bouquin. Hein? On ne peut plus rien faire maintenant, je pense. Hein? C'est central. Je vais voir. Donc, c'est Kekreis des éditions Benziger qui m'a écrit. C'est les éditions Benziger qui vont publier les traductions en allemand. J'ai constaté qu'il y avait quelques chapitres qui manquaient. Alors il faudrait encore traduire ces chapitres, et je lui ai dit, oui, c'est à cause de ça et ça. Mais très longtemps, on ne savait pas si tout ce travail était payé, ou serait payé et tout. Et c'est Czerny et Frenkel, ils sont venus vers moi, je les vois encore, Frenkel avec son parapluie, éternel parapluie, il l'avait toujours. Ils ont dansé, et ils ont dansé une danse de guerre, et ils ont dit, tu seras payé, tu seras payé, tu seras payé, on va te payer. Alors j'ai dit, tant mieux. Et j'ai été payé, et j'ai reçu 5000 francs pour la traduction, et j'ai pu faire un voyage en Égypte avec ma femme et mon fils. Ça allait tout juste à l'époque, ça allait encore. Mais je me souviens de cette traduction. Et maintenant, avec l'écrivain. Donc on a toujours des problèmes avec les éditeurs. Il faut essayer d'avoir des écrits sûrs, etc. Et quelquefois, on dit quand même, il y a des contrats oraux, on peut. Si on n'a pas de papier, même si on a des papiers, c'est difficile. Et donc, avec l'écrivain, Chessé était enchanté de la traduction et aussi de cet écho. Et après, l'éditeur m'a demandé de traduire l'ogre. Je ne sais pas si j'ai l'ogre là. Ou... Non, peut-être pas. L'ogre qui est excellent. Et c'est avec l'ogre qu'il a reçu le prix Goncourt. Et moi, je pense que c'est le meilleur bouquin pour la révolte des jeunes en Suisse. Parce qu'il n'y a pas de, de... J'ai fait un travail pour le Musée national à Zurich une fois sur la littérature suisse depuis la dernière guerre jusqu'à maintenant. Et j'ai vu qu'il n'y a pas d'excellente œuvre sur la révolte des jeunes, qui est quand même assez importante. Et lui, il est très précis. Là, je n'ai pas tout vu, la révolte à Lausanne, mais j'avais lu dans la Gazette et dans tous les journaux. Et lui, il a aussi lu les journaux et il était professeur là au gymnase. Et il a connu tous ces personnages et il a connu les bistrots et quelquefois c'était la réalité. Le vieil évêché et là son personnage de professeur qui dégueule là sur la table et c'est ce qu'il a fait. Aussi on a dit donc il y a toujours une grande partie de cinéma vérité là dans ces bouquins et donc j'ai traduit ça et j'ai traduit 5 ou 6 bouquins. Et après le deuxième, c'est Chessé qui m'a envoyé une très gentille lettre. Ah, les bouquins dans la traduction ont un tel succès que j'aime vous déclarer que dorénavant je n'accepterai que vous comme traducteur. Alors, oui, j'ai les 5-6. Hein. Et un jour, il a changé de style, il a arrêté de boire et quelquefois les romans sont devenus imbuvables. Mais un jour, il a publié quelque chose sur le séjour de Voltaire à Lausanne et ça m'intéressait, j'avais lu beaucoup et le séjour de Rousseau et de Voltaire à Lausanne m'intéressait. Alors je me suis dit, ça j'aimerais traduire. Et heureusement, il y a l'éditeur, donc toujours le même, Benziger, de Benziger, mais c'était une dame qui me téléphone, qui dit, est-ce que vous seriez d'accord de traduire Voltaire de Chessé? Et je dis, ah oui, je le ferai avec plaisir, parce que j'y ai pensé déjà. Ça, c'est un bouquin que j'aimerais traduire. Alors, on a fait le contrat oral. Mais 2 semaines après, la même dame me téléphone, elle dit, Chessé a engagé quelqu'un d'autre pour traduire. Alors, c'est quand même drôle, il m'avait écrit qu'il ne voulait que moi. Et il m'avait même écrit plusieurs fois que je devrais voir de traduire ça et ça. Et alors, on m'a expliqué après, il avait rencontré une fille qui était, ce qui est très facile, un peu plus jolie à voir que moi. Et il a promis le prochain bouquin, c'est toi qui vas le traduire. Alors, j'ai dit, moi je ne vais pas me bagarrer pour la traduction, même je regrette, etc. Alors, je laisserai la traduction à cette fille. Et il y a 2 ans, j'étais à Berlin pour quelques semaines dans l'appartement des écrivains suisses et il y avait un autre écrivain suisse-allemand, pasteur et auteur qui habite à Zollikon près de Zurich. J'ai oublié son nom, mais c'est pas si important. Il m'a reconnu, il est venu dans la salle me voir, me saluer, et moi je l'avais aussi connu à la télévision. Et alors on est allé boire une chope encore, et il prend un bouquin qu'il avait écrit et dit « il faut lire ça ». Alors là, il écrit quelques pages sur la traduction du Voltaire de Gessé, et il montre toutes les bêtises, les mauvaises traductions, les déformations. Il dit, mais c'est quand même triste, des traductions de cette qualité. Hein. Et j'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, oh, non, je sais, hein, je sais. Mais il avait écrit, donc il avait lu ça, et il avait vu que c'était pas du tout compris. Et... après cet essai, et je le comprends, j'essaie, bah, parce qu'on peut y chercher la femme, même pour la traduction. Et après, il m'a écrit une très gentille lettre. Il m'a dit, on devrait quand même voir si on pouvait traduire le prochain bouquin que je vais... publié, etc. Alors, je lui ai plus répondu parce que je me suis dit, il y aura une autre fille qui pourra passer. Après, moi, j'y suis pour rien. Voilà, donc, on a des problèmes avec des éditeurs, je voulais vous le montrer. Il y a des problèmes quelquefois avec les auteurs, mais grosso modo, je peux dire, avec ça, j'ai fait connaissance avec des bouquins intéressants, avec des gens, des hommes, surtout des femmes. J'ai traduit beaucoup de femmes qui sont très intéressantes, et j'ai eu un goût de la richesse de la production. Et si j'ose faire de la propagande, j'aimerais vous lire ce que Doris Jakubek, qui est professeure pour la littérature suisse romande, elle a dit, quand on regarde rétrospectivement son parcours, on s'aperçoit que Marcel Schwander a traduit en allemand de manière suivie et continue les romanciers romans les plus importants, tous ceux qui ont inventé leur propre langue, créé des formes neuves, voire transgressive. Et à l'université de Lausanne, on m'a donné le prix de Berne, qui est le plus haut prix de l'université. Et heureusement, l'ancien gouvernement bernois n'avait pas été réélu. Il y avait un gouvernement avec deux verts et des gauches et tout ça. Et... alors, j'ai reçu ce prix en 86. Il y avait la représentante du gouvernement bernois qui est venue à Lausanne, et le vice-recteur a dit, il a parlé du travail du correspondant et du traducteur, et je cite, « L'intimité, la subtilité de votre connaissance du pays roman » ne résulte pas seulement de vos innombrables contacts et observations an Ort und Stelle. Votre connaissance est bien plus profonde encore. Elle passe par votre qualité de traducteur hors pair d'écrivain suisse roman. Je trouve ça très beau. Mais ça, il y a déjà longtemps. Entre-temps, il y a d'autres qui sont aussi hors pair comme traducteurs. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci bien. Oui.
Je suppose que nous avons encore quelques minutes pour
oui.
poser quelques questions. Alors, je propose à l'assistance de poser des questions à Marcel Schwander par rapport à son travail de traducteur.
Oui, monsieur.
habe Ihnen eventuelle Diskussionen mit dem Autoren geholfen bei der Übersetzung?
Ich achte eigentlich immer darauf, möglichst die Autoren möglichst wenig zu belästigen. Es kommt manchmal vor bei einem Buch, dass ich irgendwo an einer Stelle nicht ganz klar sehe und dann werde ich anläuten, aber das kommt höchstens einmal vor in einem Buch für Ausdruck oder wo ich denn, ich habe doch so viele Wörterbücher und Enzyklopädien und alles, um das zuerst nachzuschauen und wenn man lange schaut, findet man es. Aber im schlimmsten Fall kann man es versuchen. Häufig kann der Autor das auch nicht richtig erklären. Manchmal kann er einem helfen darauf. Aber es ist doch so, dass der Autor in einer Welt lebt und der Übersetzer in einer anderen Welt und der soll selber nachschauen. Ich habe einen kleinen Text gemacht für ein Fotobuch. Kürzlich und das ist übersetzt worden und da habe ich in dem Text verwendet das Wort die schweizerische Landestopographie und die Übersetzerin, die hat das übersetzt La Topographie Nationale und da habe ich mir gedacht, das ist ja nicht möglich und ich habe dann auf den Landeskarten nachgeschaut. Da heißt es Service Topographique Fédéral. Das ist der richtige Name. Und wenn ich als Übersetzer nicht zu faul bin, muss ich das eben selber herausfinden. Ich kann mir sagen, das habe ich auf einer Karte und das ist die richtige Übersetzung. Ich kann vom Autor, kann ich das häufig gar nicht. Der weiß nur, in dem Fall weiß er, man sagt die schweizerische Landestopographie. Aber er weiß den Namen, das Wort nicht. Aber der Übersetzer muss sehr aktiv sein und alle Möglichkeiten erforschen, um die richtigen Bezeichnungen zu finden. Und das ist manchmal sehr schwierig, wie in diesem Fall. Aber ich versuche, manchmal, ich hatte da beim ersten Chasse hatte ich wenig Erfahrung und ich habe ihm dann ein bisschen aus dem Kapitel Honne de Berne vorgelesen. Wir sind da zusammengesessen und ich weiß nicht, ob er zugehört hat, aber er sagte, das sei sehr gut, das sei sehr schön. Und, ja.
Ist überhaupt ein Autor fähig, Ihre Arbeit zu beurteilen?
Bitte?
Ist ein Autor fähig, Ihre Arbeit zu beurteilen?
Der Autor kann das durch verschiedene, es kommt darauf an, wie gut er die andere Sprache beherrscht, wie gut er das Deutsche beherrscht. Wenn er das Deutsche gut beherrscht, so kann er etwas spüren, aber das Wichtige ist ja das Echo, das aus den Zeitungen kommt. Da sieht er, das kommt gut an und da werde ich gelobt und gerühmt und bis in den Himmel gehoben und so. Und dann hat er das Gefühl, ja, die Übersetzung ist gut, aber ich weiß nicht, ob Schesse diese Kritik des Pfarrerschriftstellers aus Zollikon bei Zürich in einem seiner Bücher über mehrere Seiten, da schreibt er über die Arbeit des Übersetzers und ein vernichtendes Urteil über diese sehr hübsche Dame, die das übersetzt hat, nicht wahr? Und ich weiß es nicht, ob er das gesehen hat, auch nicht beim Verleger. Aber es ist natürlich, es ist ja auch für einen Autor, sagen wir für einen Japaner oder so, ist es schwierig, eine deutsche Übersetzung so gut, dass wie für einen Schweizer schwierig ist, eine chinesische Übersetzung zu beurteilen. Nun ist ja Deutsch für einen Westschweizer nicht unbedingt Chinesisch, manchmal schon. Nicht? Und umgekehrt. Aber ich habe es gern und ich habe mit vielen Autoren nachher eigentlich sehr gute Kontakte gehabt, aber eigentlich erst, wenn das Buch herausgekommen, als das Buch herausgekommen war, wenn man dann einen Dreier zusammen trinken kann und darauf anstoßen kann und dann erzählt er noch ein wenig. Und in manchem ist es gut, wenn man es schon vor Abschluss, dass man den Charakter des Menschen kennt, wovon er da schwärmt und was er verdammt, und damit man bei ihm sehen kann, woher es kommt. Und das ist für mich eigentlich wichtiger, in dem Sinn, dass sich die Atmosphäre und das Denken, die Philosophie von einer anderen Seite als von der Buchseite her kennenlerne. Ja, meine Damen. J'ai pas très bien compris.
J'imagine que la traduction de la poésie.
Oui, la traduction de la poésie, oui.
C'est une entreprise assez difficile.
Oui.
Alors, est-ce qu'à vos yeux, c'est plus difficile de traduire de la poésie classique rythmée avec les pieds et les vers que de la poésie.
Ah, la moderne. Ah, oui. Ah, je crois pas. Parce que oui, dans la poésie classique, il y a donc les vers, il y a les rimes et tout ça, c'est bien ordonné. J'ai traduit, je l'ai pas ici. J'essaie, par exemple, à publier un bouquin, Les Cinq Sens, où il parle donc des cinq sens, et c'est de la poésie. Mais de la poésie moderne, donc de l'odorat et la vue et tout ça, et il en fait une poésie. Et moi j'aime cette poésie moderne dans toute liberté, et il y a souvent dans la prose tout ce qui est c'est chez Molière là. Qui dit tout ce qui est prose n'est pas poésie, et tout ce qui est poésie n'est pas prose, et même peut-être c'est même pas vrai. Quelquefois il y a de la poésie qui est en vérité pour nous de la prose, et la poésie est là-dedans, la poésie, et il y a des mots un mot seulement qui peut être une petite poésie, ou deux mots, je mets deux mots, et il faut toujours sentir, même si on traduit de la prose, il faut toujours sentir de la musique dans toute chose, là. Il faut cette mélodie et la poésie et tout ça, et il faut être amoureux des mots, il faut être amoureux de ce qu'il y a derrière les mots. Et donc, moi j'aime toutes les formes de poésie. Ouais, merci à vous. Ouais.
J'ai une question, j'ai vu que vous avez traduit des auteurs très différents.
Oui.
Ça va de Jacques Chesset à Corinne Aby, et en passant par Alice Riva. Est-ce que vous tâchez de vous imprégner du style de chaque auteur de manière un peu protéiforme dans vos traductions?
Oui.
Bien, est-ce qu'il y a un style de traduction?
Non, 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 on ne mélange pas. On change. On change de pays. On change de pays intérieur. Et on découvre des choses. Je me souviens, Corinne Aby, quand je l'ai traduit, j'avais souvent, je pensais aux promenades que j'avais faites avec mon frère aîné, quand on était allé sur les montagnes glaronnaises et des fleurs, je voyais les fleurs, je sentais, je vois les papillons, parce que Corinne Aby est vraiment une poétesse. Tout ce qu'elle écrit, c'est de la poésie, même s'il n'y a pas de rimes, Ce n'est pas déclaré comme pour le bourgeois gentilhomme, tout ce qui est poésie n'est pas prose et tout ce qui est prose n'est pas poésie. Ce n'est pas juste. Et parce que j'avais l'impression, avec Corinne Aby, qu'elle-même, comme femme, elle était quelque chose comme une fée qui n'était pas tout à fait réelle. Elle est réelle, mais elle donnait cette impression. Et quand on la lit, on a aussi l'impression de plonger dans un monde très poétique. Et on le sent, je crois, on le sent presque corporellement, disons que c'est de la poésie. Ou Alice Riva, on entre aussi là dans une femme qui a lutté pour les droits, pour l'égalité de la femme, etc. C'est une autre manière, là, quand elle compare le monde à une ruche, et qu'elle donne la ruche, les abeilles, comme bon exemple pour la société humaine. Les mâles, c'est juste, c'est bien pour travailler, mais la reine, c'est une femme, et tout, etc. Mais c'est merveilleux de changer. On va dans un autre homme, une autre femme, et un autre monde. Voilà, oui. Magum Zurecha.
Ja.
Das, dass man nicht kann ein Wort so übersetzen.
Ja, weil eben Inhalt und Rhythmus. Und
ja, das ist immer etwas. Man kann nur partiell übersetzen. Und eben, was man manchmal muss so ein Pars pro Toto eben übersetzen. Es gibt ja eine Methode, ich nehme statt eine Kirschentorte. Da werde ich vielleicht nur eine Kirsche und sagen, es hat eine Kirsche oben auf der Torte oder so. Ich muss einfach auswählen, weil ich muss auch immer wissen, dass ich nicht ein Wort völlig übersetzen kann. Es ist ja in den Wörterbüchern, da gibt es vielleicht für ein Wort gibt es 5, 6 mögliche Übersetzungen. Und das ist ja das Schwierige. Wenn als Schüler, wenn man da den Diktionär aufklappt und dann hat man 5 Übersetzungen und dann haben wir keine Ahnung, welche eigentlich die richtige wäre. Es ist jede Übersetzung ist die richtige, aber sie muss am richtigen Platz sein, sonst ist sie falsch. Und das ist das Problem, eben weil die Wörter einfach nicht aufeinander abstimmen. Und da muss man auch, es ist das Wunderschöne, sagen wir, bei den Wörtern die Herkunft schauen, in die Etymologie, woher kommt das Wort, und dann findet man, dass zum Beispiel das Wort Admiral aus dem Arabischen kommt. Das kommt vom arabischen Amir al-Bahr. Bahr heißt Meer und Amir heißt Fürst. Also Meeresfürst, Amir al-Bahr. Und das ist von den Phönizianern, die haben ja mit den Arabern einige Kriege geführt und Konkurrenzkämpfe auf dem Mittelmeer. Und die haben das Wort ins Italienische übernommen, Amirale. Französisch hat es auch richtig übernommen, Amiral. Und dann im Englischen und im Deutschen, da hatte es einige ganz super schlaue Gelehrte, die haben herausgefunden,